Eh bien voilà une bonne introduction pour cette émission spéciale avec Jacques Cézanne, musicien, chanteur. On va faire sa connaissance tout de suite sur Fréquence Mistral. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu déjà pour nous annoncer, avant de commencer un spectacle, un concert qui va avoir lieu dans ce club, Odali Club.
Oui, c'est ça, vendredi 23 mai. Le concert commence à 9h30 et donc c'est un concert du groupe Double Blues ou Double Blues, je ne sais pas comment il faut le prononcer. C'est mes collègues qui ont inventé le nom, alors ma foi, ils le prononcent comme ils veulent. Double Blues, c'est parce que c'est un groupe double, à deux têtes ou plutôt à trois têtes, mais deux styles, deux guitaristes, deux chanteurs, deux bassistes, et pourtant nous ne sommes que trois. Voilà, donc... Nous avons une formule magique.
Alors, vous avez fait de la musique depuis toujours. On va vraiment faire connaissance avec vous, enfin, en tout cas moi, puisque je suis ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. Vous avez fait de la musique depuis toujours ?
Depuis très longtemps, disons, oui.
Très longtemps.
Oui, oh, j'ai commencé quand j'étais gamin, quoi. Avant d'avoir une guitare, j'avais une raquette de tennis et ma foi, je savais déjà tenir la raquette de tennis à défaut de jouer de la guitare pour imiter... Scotty Moore, le gars qui jouait de la guitare derrière Elvis Presley, etc., devant la glace du salon chez moi. Mon frère jouait je chantais et moi je jouais de la guitare derrière. Vous voyez, comme donc, les destins se forgent.
La guitare, donc, ça a été le premier instrument.
Ouais.
Le seul?
Ben, je joue de la basse depuis 5 mois, ou 6 mois.
Voilà.
Mais, autrement, oui, non, je me suis jamais tellement essayé aux autres instruments.
Donc, guitare très jeune, à l'adolescence ?
Oui, oui, oui.
Et vos idoles, alors, à cette époque-là ?
Elvis Presley, Jane Vincent, Eddie Cochran, voilà, la base. Puis après, assez, très très vite, les joueurs, les chanteurs et musiciens noirs sont arrivés dans mon univers. Ray Charles en premier. Et puis après, je suis tombé sur un disque qui s'appelait... Folk Blues Festival, ça devait être en 63 ou 64, il y avait Johnny Hooker, il y avait Sonny Terry, Brownie McGee, il y avait T-Bone Walker, tous les vieux de la vieille, mais qui jouaient extraordinairement bien. Il y avait Willie Dixon à la basse, évidemment. Un disque extraordinaire que j'ai écouté des milliers de fois. Et moi, j'ai compris vite que c'était ça mon truc, quoi. C'était ça qui me plaisait encore plus que le rock'n'roll, quoique. Et il fallait s'accrocher pour me plaire plus. Et puis, il y a eu Dylan aussi. Je suis devenu un fanatique de Dylan pendant des années, des années, des années. Et puis voilà, après Dylan, le guitariste de Dylan s'appelle Mike Bloomfield, qui était un grand guitariste de blues. C'est marrant, je me suis plutôt orienté vers les musiciens blancs à cette époque-là. J'ai gardé la base avec les grands ancêtres du blues qui étaient des noirs, mais la modernité est venue des blancs. Quand j'ai découvert Cream, par exemple, avec Eric Clapton en 67, etc., etc., puis après toute la suite.
Donc à cette époque, vous chantez, vous reprenez aussi déjà du Bob Dylan.
Je chantais Dylan. Tout de suite. Blowing in the Wind, j'ai dû l'apprendre en 63, quoi, au moment où c'est sorti, parce que j'étais en pension chez des frères catholiques et on avait un prof d'anglais qui n'était pas frère, lui, mais qui est assez sympa, assez jeune, et il nous a fait écouter Bob Dylan quasiment à sa sortie. Il revenait des États-Unis, certainement, il avait acheté le disque, bon, c'était tout nouveau, tout beau. Et bon, nous, on connaissait encore que le tout début des Beatles, et lui nous a fait découvrir Bob Dylan. J'avoue, pour moi, ça a été une grande révélation.
Ouais. Vous compreniez bien sûr ses textes tout de suite
disons que pas tout. Moi, j'ai jamais eu...
On se laisse d'abord bercer par la mélodie.
Moi, j'ai jamais été très branché parole, de toute façon. Avec Dylan, oui, c'était un petit peu incontournable, mais... même encore aujourd'hui, quand j'écoute les chansons de Dylan, je ne porte pas une grande attention aux paroles. Peut-être parce que j'en connais les trois quarts par cœur, mais aussi parce que je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel. La chanson, pour moi, c'est un mode... à part, bon, les chanteurs à texte, oui, sans doute, mais même. Je me demande si Brel Bon, hein, si les paroles étaient moins bien, ça serait certainement moins bien, mais parce qu'il est très 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 bien. Je veux dire, il y a une émotion dans la façon de chanter qui dépasse un petit peu le sens des paroles. Et il y a des gens qui ont des textes très très beaux, mais musicalement la forme me plaît moins. Alors bon, à la limite, je lirai plus le texte que j'écouterai les chansons. Bon, après. Oui, je comprenais, mais c'était pas l'essentiel. Puis les vieux, les briscards de blues, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'ils disent.
Alors, vous avez commencé donc la guitare avec en chantant des reprises de Dylan. On parlera des reprises après, parce qu'il n'y a pas de honte à faire des reprises. Il y a tellement de beaux morceaux et de belles chansons qui existent. Mm-hmm. Vous avez essayé de faire un groupe avec votre frère puisqu'il faisait de la musique.
Non, mon frère jouait dans un groupe, il était chanteur, et bon, ils avaient déjà un guitariste, ils avaient un excellent guitariste, donc j'ai pas pu accéder à ça, c'est venu après. Moi, je suis devenu professionnel, et lui, il est devenu autre chose, avec un petit regret de pas avoir été musicien professionnel. C'est rigolo, ouais. Comment les destins se forgent, comme je disais tout à l'heure, ouais.
Et à quel âge vous avez commencé à faire un premier groupe ?
Oh, je devais avoir 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. 15-16 ans, oui. J'ai des copains qui m'avaient demandé de... Ils avaient monté une sorte de troupe de spectacle, théâtre, chanson, musique, itinérante. Bon, c'est-à-dire qu'on faisait des concerts, quoi. Et donc, je m'étais joint à eux. Donc, il y avait une sorte de groupe en ce sens qu'il y avait une partie du spectacle où on était trois sur scène en même temps. Mais je faisais mon propre truc. Moi, je chantais du Brassens, je chantais Paul Naref et puis Dylan. Je chantais un peu de français parce qu'à l'époque, ça me plaisait. Et puis Brassens, après tout, c'est pas si mal.
Je pense que c'est
pas très blues, mais c'est pas très mal. C'est pas mal, non.
C'est toujours d'actualité. C'est toujours autant apprécié, je pense, partout en France et ailleurs. Mm-hmm. Brassens.
Sans doute. J'espère. Je sais pas. J'ai pas beaucoup parlé de Brassens avec des jeunes, mais ouais, ils connaissent quand même.
Il y en a qui sont bien accros et. Il est repris, il y a des hommages souvent à Brassens. Ouais. Ça fait 30 ans déjà qu'il a disparu.
Oui, en 80, il est mort, je crois. Ouais, c'est... Je me souviens, j'étais sur la route ce soir-là, j'allais à Vaison-la-Romaine pour un concert. Et je devais rouler toute la nuit et j'ai appris la mort de Brassens en partant de Paris. Et ça m'a un petit peu gâché mon voyage parce que... On voyait bien qu'il était malade, mais c'était quelqu'un qui faisait partie du paysage. Et j'avoue que je suis toujours assez affecté par la disparition des musiciens. Ça, j'ai eu du mal à me remettre de la mort de Brel en 78. C'est des gens qui... C'est ça l'intérêt, le merveilleux de la musique et de la chanson, c'est que ce sont des gens qui font partie de notre univers, qu'on a introduit dans notre univers et qui le meublent d'une façon... très très forte, et quand ils disparaissent, ben on a l'impression que le monde est un petit peu moins intéressant d'un seul coup. Et il faut du temps pour s'en remettre, en tout cas c'est ce qui m'arrive à moi. Voilà, c'est mes premiers pas sur scène avec Brassens et Paul Naref.
Et à l'époque, vous étiez où?
J'étais à Chalon-sur-Saône.
Je suis
Les origines sont du Midi, mais j'ai vécu toute ma jeunesse en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, donc j'ai fait mes études à Dijon. Et voilà, quoi.
Et après, alors le goût du voyage, c'était pour la musique aussi, parce que vous avez voyagé?
J'ai voyagé assez vite. J'ai fait mes vacances en Angleterre, comme on faisait beaucoup à l'époque, enfin dans mon milieu en tout cas. Je pense que tout le monde n'avait pas les moyens de se payer ça, mais j'avais la chance... d'avoir des parents qui pouvaient me l'offrir. Et puis bon, ils ont senti tout de suite que l'anglais, c'était quand même mon truc. Donc ils m'ont envoyé là-bas. J'avais quoi? La première fois, je devais avoir 14 ans et demi. Ouais, je me souviens, j'ai fait un voyage avec mon frère en train. C'était sympa. Un train à vapeur, imaginez un peu. C'est pas d'hier quand même. Partir en Angleterre comme ça. Ouais. Enfin bon, c'est des merveilles de jeunesse.
Une bonne expérience pour vous?
Oui, parce que je suis arrivé à... On était à Southampton, dans le sud, donc, et Moi, j'étais logé dans un pub. J'habitais chez des gens qui avaient un pub. Et quand on avait un pub, à cette époque, ils avaient un jukebox.
Et, ouais.
Et sur le jukebox, c'est pour situer, comme ça, on fait un peu d'archéologie. Il y a que les vieux qui vont vraiment comprendre ce que je raconte, mais les trois disques qui étaient les plus en demande, les quatre disques qui étaient les plus en demande à l'époque dans ce jukebox, et qui sont sortis à peu près en même temps, c'était Hard Day's Night des Beatles, Not Fade Away des Stones, My Generation des Who et The House of the Rising Sun des Animals. Donc, c'est pas mal quand même, ces quatre hymnes de cette époque-là, tout début de cette explosion de la musique pop, quoi, pop rock. Et voilà ce qu'on écoutait. Et bon, c'était vraiment une époque en Angleterre. Pour un jeune adolescent de France, être en Angleterre à cette époque-là, c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment quelque chose, parce qu'il y a de la musique dans tous les coins, quoi. Enfin bon, moi, j'écoutais ces disques sur le jukebox. J'avais un jeton, il n'y avait pas besoin de payer en plus. C'est ça qui était cool.
Alors les jukebox, mais aussi de la musique en live, non? Dans les
bien
pubs,
sûr.
Ça se faisait beaucoup.
Je suis allé beaucoup, mais c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était encore le tout début. Et la musique qu'on écoutait dans les pubs, à part à Londres, c'était plutôt encore du jazz, du New Orleans, du skiffle, des tas de choses comme ça, mais pas encore du rock. Le rock, c'est venu l'année d'après, quoi, quasiment. Mais à cette époque-là, c'était vraiment l'époque de la transition. Et dans les pubs, non, j'ai pas vu de rock, j'ai vu que du jazz. Et joué par des gens qui avaient la quarantaine, cinquantaine. Les jeunes sont venus tout petit peu après. Ouais.
Donc, ce premier voyage à Londres, vous êtes resté quelques mois ?
Non, je suis resté un mois seulement.
Un mois seulement. Ouais. Et c'était suffisant pour apprendre la bonne prononciation pour l'anglais pour...
Ben, moi, j'ai commencé à écouter du rock'n'roll quand j'avais 9 ans. Les
parents déjà musiciens ou pas ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, mon frère, j'avais un frère de 2 ans et demi plus que moi, donc il s'est mis à écouter Ray Charles et Elvis Presley. Et donc, moi, j'ai entendu ça tout de suite, en étant un peu plus jeune, donc. Et puis, on sait peut-être pas ça, mais quand on entend des sonorités d'une langue étrangère avant l'âge de 11 ans, ça aide énormément pour la prononciation. Et moi, je comprenais rien de ce que je disais, parce que je faisais pas d'anglais, bien évidemment, à l'école. Puis j'ai commencé en faisant de l'allemand. Mais j'ai reproduit ce que j'entendais chez Jane Vincent, chez Elvis Presley ou Ray Charles, jour et nuit, quoi, parce que je faisais que ça. Moi, j'écoutais mes disques du soir au matin, du matin au soir. Et donc, quand j'ai commencé l'anglais, j'avais déjà des sonorités que je connaissais. Donc, je savais pas comment elles s'écrivaient, mais je les ai vite comprises, quoi, disons. Et puis, j'avais déjà prononcé les sons avant l'âge de 11 ans. Et donc, ben voilà, je parlais déjà pas mal anglais quand je suis parti en Angleterre. J'ai eu cette chance-là. C'est pour ça que à la fin, j'en ai fait mon métier. Enfin, le métier qui rapporte.
C'est-à-dire ?
Ben, j'étais prof d'anglais pendant des années.
Ah, d'accord. Ouais, donc, ouais. une sécurité quand même professionnelle.
Oui, ouais, mais... Ouais,
mais beaucoup, la passion quand même de la musique était là tout au long de ces années.
Oui, oui. Non, puis en plus, j'ai fait de la musique en professionnel, mais... Le professorat est venu après, c'est une sorte de deuxième vie, oui. Pas
d'accord.
La meilleure, mais une vive, fallait bien vivre.
Alors votre parcours entre l'adolescence et maintenant, donc j'imagine qu'il y a eu plusieurs cycles de vie,
ouais, pas mal, ouais.
Beaucoup de musique et qui vous ont mené au voyage ou pas ?
Oui, j'ai pas mal voyagé, oui. Bon, parce que j'ai fait des tas de groupes, j'ai joué beaucoup dans mon bled, quoi, en Bourgogne. Et puis, de fil en aiguille, ça se passe toujours comme ça. J'ai rencontré pas mal de gens, un groupe parisien qui s'appelait Zao à la grande époque, une sorte de clone de Magma. Et notre preneur de son est devenu leur preneur de son. Et puis un jour, il était en studio à Genève avec un chanteur qui s'appelait Risset Barrier, qui faisait des chansons humoristiques. Quelqu'un qui avait commencé sa carrière à la fin des années 50 et qui a eu besoin d'un guitariste. Et donc, par ce copain de copain, il a pensé à moi. Il est venu me chercher complètement par hasard. Moi, je savais pas du tout que... Enfin, j'imaginais vraiment pas tomber dans ce bain-là. Puis ma foi, je suis monté à Paris pour. Non, je suis allé à Genève pour rencontrer le gars. Il m'a fait jouer 2 minutes. On a discuté et puis il m'a embauché comme ça. Le gars lui avait dit que je jouais bien, donc que je jouais, ça suffisait en tout cas. Bon, donc il m'a embauché et puis voilà, j'ai travaillé 6 ans avec lui. Et donc avec lui, j'ai fait 2 tournées au Canada. J'ai fait la Suisse, la Belgique et la France en long, en large, en travers. La première tournée professionnelle que j'ai faite, c'était le Tour de France. Alors on jouait le soir après à Nicordi, ou avant à Nicordi.
Oui, ça fait un mélange d'étonnant.
Sur le podium France Inter avec Lucien Jeunesse, Raymond Poulidor, enfin bon. C'est moi qui arrivais de Montblet, c'était super. On a fait donc tout le Tour de France.
Une super ambiance alors.
Les 27 étapes, on se marrait bien parce qu'en plus moi j'étais payé comme un roi alors que un mois avant, je galérais à faire du bal le samedi soir pour point rond, et dans des conditions plutôt précaires, alors que là, c'était franchement le pic, quoi. C'était vraiment bien. Donc oui, j'ai commencé pas mal à voyager avec ça. Puis après, j'ai été engagé dans la troupe de théâtre de Jérôme Savary, qui s'appelait le Grand Magic Circus. Donc on a fait l'Espagne, on a fait l'Allemagne, on a fait l'Italie, on a fait la Hollande, l'Autriche... Et là, ce qui était bien, c'est qu'on faisait souvent des résidences. Par exemple, à Düsseldorf, on a joué 3 mois. Donc, j'ai vécu à Düsseldorf 3 mois. C'est des expériences assez intéressantes quand même d'habiter dans un pays étranger, mais d'y travailler aussi parce que on n'est pas là en touriste, quoi. On est obligé d'avoir des horaires réguliers, donc de rencontrer la vraie vie des vrais gens, quoi. C'était vraiment une époque très intéressante pour moi.
Une vie de nomade.
Oui.
Une vie de nomade.
Oui. Pas mal nomade, ouais. C'est vrai qu'après, quand on revient, c'est un peu difficile de se poser.
Réadapter, ouais.
Quand je suis arrivé ici, je me suis... j'ai fait de la musique, pas mal de musique, et puis, mais en amateur, quand j'ai quitté Paris. Et puis j'ai travaillé à l'Occitane, imaginez donc. Parce que, j'ai rencontré le directeur de l'époque. Et tout de suite, il m'a mis à l'international, ce qui fait que j'ai voyagé, que je suis parti en Arabie Saoudite, en Espagne, je suis parti un peu partout, quoi, en Allemagne, en Italie. Ça fait, le voyage, beaucoup, ouais.
On va faire une petite pause musicale avec du blues, bien sûr.
Bien sûr.
On va écouter un premier morceau du CD que vous avez bien voulu amener, le Double Blues.
Ouais. Oui. Double Blues, c'est donc un groupe qu'on fait à trois. Il y a un guitariste-chanteur qui s'appelle Daniel Pacci, et puis un batteur qui s'appelle Philippe Dercol, en plus de moi. Et là, on va écouter Daniel Pacci qui chante Big Boss Man.
C'est parti.
Big Boss Man, can you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? You know your hands are big, you just stole that stole. Well, I'm gonna get a boss man, one that suit me right. Rock our hands a day hard and arrested at night. Big boss man, can you hear me when I call? You know your hands are big, you just stole that stole. We'll be right back.
that took me right. I walk out in the day, all the rest of the night. Big boss man, yeah, can you hear me when I call? Just told that story. You know your hands are big. You just told that story. You know your hands are big. You just told that
Et nous sommes toujours en compagnie de Jacques Cézanne, musicien, bluesman, chanteur, guitariste et bassiste. Alors, Jacques Cézanne, on vient d'écouter un premier morceau issu de l'album du trio que vous formez actuellement.
Je dois dire que ce n'est pas vraiment un album, c'est une démo. C'est-à-dire, quand on répète dans notre studio de répétition, on ouvre les micros. Et puis après, on fait un petit mixage, et puis voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas le son qu'il faudrait, c'est pas parfait, c'est pas léché, mais bon, c'est bien, ça nous suffit pour l'instant. On verra plus tard pour faire un vrai album. Ça demande plus de travail et ça demande pas mal de choses pour faire un bon album, quelque chose qui vaille le coup, quoi. Enfin bon, le son est sympa et ça permet d'entendre ce qu'on fait parce que c'est sur scène, ça sonne comme ça, quoi. Voilà.
Alors donc, on va revenir à vos expériences musicales. Donc vous avez fait jouer 6 ans avec Rice et Barrier, c'est
oui,
ça ?
Oui, oui, oui.
Alors avant d'aller avec le théâtre de Jérôme Savary, le Grand Magic Circus, comment ça se passe quand on fait 6 ans ? C'est quand même beaucoup de tourner. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des bons souvenirs, des moins bons souvenirs ?
Bon, les six années que j'ai passées avec Rice et Barrier, donc plus beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, malheureusement, mais le temps passe. Bon,
parlez-nous d'eux.
Le haut de sa carrière, c'est les années 60, début des années 60. C'est un type qui... les gens de ma génération le connaissent tous, même s'ils le connaissent pas, parce qu'ils ont entendu forcément... Il y avait une émission qui passait à la télé qui s'appelait « Saturnin le petit canard ».
Oui.
Il y a des chansons comme Il y a plus de sous papa, il y a des chansons comme Les cousins de Paris, c'est toujours des choses un peu paysannes. Et parce que c'était un chanteur humoristique et qui mettait souvent en scène des personnages des paysans dans ses enfin des paysans fantasmés par un monsieur des villes évidemment, mais disons avec un point de vue humoristique. Et donc, il était relativement connu. Il a fait des chansons pour les frères Jacques, il a fait des chansons pour des tas de gens. Il a fait, La Java des Gaulois, par exemple, c'est lui. Il a fait des chansons que les frères Jacques ont reprises, N'assistez pas Stanislas. Beaucoup de gens connaissent ces chansons sans savoir que c'est lui qui les a faites, peu importe. Lui, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris la scène. Je veux dire que c'est une belle expérience avec lui. On a fait parce que. Avec lui, on a joué dans des cabarets rive gauche où les gens viennent manger, quoi. Et puis il y a une dizaine d'artistes qui se succèdent. On est payé au lance-pierre, mais on boit des coups. On refait le monde jusqu'à 5-6 heures du matin avec les collègues qui attendent le succès, qui viendra jamais ou qui est un petit succès partiel, etc., etc. Enfin, on rencontre des gens, on voit des vieilles gloires. Moi, j'avais revu un type qui s'appelait Georges Chelon dans une boîte.
Oh, ben, on connaît bien.
Oui, oui. Voilà, Georges Chelon. Mais ça faisait des années déjà que j'avais plus entendu parler de lui. Et j'ai vu Patrick Sébastien au tout début de sa carrière. Il faisait l'animateur dans une boîte rue Saint-Honoré. Il était rigolo, mais bon, sans plus, quoi. J'ai rencontré des tas de gens, Maurice Fanon, je saurais plus dire les mots, Georges Moustaki, là, qui venait jouer aux échecs dans un des cabarets rive gauche où on jouait. Alors, il était au premier avec ses potes, il jouait aux échecs, puis il repartait à 4 heures du mat avec sa grosse BMW. C'était un personnage assez sympa, vraiment un type plus simple, on fait pas, quoi. J'ai appris beaucoup. Comme on jouait dans des tout petits trucs comme ça, on se retrouvait souvent avec certains soirs, très peu de monde. Il faut quand même faire le boulot. Il faut le faire aussi bien que quand il y a beaucoup de monde. Et j'ai appris des choses de scène qui sont pas évidentes. Le fait que, par exemple, un concert peut se passer très très bien alors que tout ce qui l'a précédé a été une vraie catastrophe, quoi. On arrive, le son est pourri ou on a l'impression qu'il l'est, je sais pas, tout se passe mal. Et puis, il y a parfois une sorte de magie qui se passe sur scène et on sort du concert ébloui alors que tout se présentait mal. Et vice versa, on peut arriver dans des endroits où le son est impeccable, il y a une sono d'enfer, on a l'impression qu'il y a tout et puis on fait le concert et puis on sort de scène un petit peu frustré en se disant bof. C'est un peu emmerdé ce soir, c'était de la routine, quoi. C'était du métier. Il n'y avait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de nécessité qui faisait qu'on a été obligé de se dépasser un petit peu, quoi. Des choses. Donc la magie de la scène, c'est ça, c'est qu'on monte sur scène avec une grippe carabinée, et au bout de 5 minutes, on oublie la grippe. Quand on ressort, elle vous reprend au collet dès qu'on descend de la scène, mais sur scène, il se passe des choses spéciales qu'il faut avoir été sur une scène pour connaître. C'est pas élitiste ce que je dis, c'est, je veux dire, il y a des gens qui monteront jamais sur scène parce qu'ils en ont pas le goût, ils ont pas l'occasion, etc. Mais il faut avoir fait de la scène pour savoir ce qui se passe sur un plateau. Moi, je suis assez fasciné par les comédiens, j'avoue que j'ai jamais été comédien alors que je pense que ça aurait peut-être été mon truc premier, quoi, la parole, les textes. J'ai vu, parce que j'ai été musicien dans une troupe de théâtre, j'ai vu les comédiens sur scène. Je me suis aperçu, c'était un autre monde, quoi. C'est vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'il a de fascinant, ce monde?
Quand on est musicien et qu'on ne joue pas en solo, on peut toujours se planquer derrière les autres. Si on fait une fausse note, on fait un grand sourire, on sifflote, on regarde ailleurs, et puis voilà, c'est passé, parce qu'on était, avec le Magic Circus, on était 15 musiciens. Donc bon, t'en en plantes une, c'est à moins que ça soit la note qu'on doit faire seul, ça arrive aussi. Mais tandis que le comédien, il balance son texte tout seul, nécessairement. On peut pas parler sur l'autre. Donc l'erreur, le trou, la fausse intonation, ça pardonne pas. Donc c'est très tendu sur scène, hein, chez les comédiens. Bon, j'imagine que chez les musiciens classiques de très haut niveau, ça doit être aussi comme ça, extrêmement tendu. Mais bon, pour être musicien, je connais mieux ça. Mais le texte, c'est pas évident, parce que de toute façon, on peut jouer une fausse note ou une note qui n'est pas dans la mélodie. Si elle est juste, ma foi, les gens sont pas censés savoir qu'on n'avait pas l'intention de la jouer. Tandis que si on dit n'importe quoi ou qu'on dit rouge à la place de bleu dans un texte, tout de suite, les gens comprennent et les gens perçoivent cette erreur. Donc, ouais, j'étais très fasciné par ça.
Ouais. Quand on connaît la scène, on n'a jamais envie de la quitter. Vous parliez, en même temps, vous êtes quelqu'un de pudique et de plutôt discret, plutôt timide, c'est ce que vous me disiez. La scène, ça enlève toute cette timidité s'envole.
Oui, il y a une inhibition qui se lève, effectivement. Je pense que le meilleur moment du trac, c'est le moment où il vous quitte. Mais comme de l'eau qui d'un seul coup serait débondée et qui vous quitte, quoi. Et c'est un moment mon expérience du trac, c'est ça, c'est qu'on sent ce moment où ça se débonde et d'un seul coup, ça y est, il y a une sorte de grand soupir, et ça y est, c'est bon. C'est assez magique, ça.
Qu'est-ce qu'il faut pour que ce trac s'en aille? Il faut, parce qu'on se repose aussi sur les musiciens qui sont autour.
Non, je pense que on se dit, je vais pas y arriver. Le trac, c'est ça. C'est que, vous savez, Jacques Brel montait en scène tous les soirs après avoir dégueulé Tripes et Boyaux. Il y a plein d'artistes comme ça qui montent en scène dans des états de terreur. J'imagine qu'un type qui va réciter Cyrano de Bergerac, 1500 vers d'affilée, il doit quand même flipper un peu. Je me souviens d'ailleurs, on jouait au théâtre Mogador à Paris et en même temps, on alternait avec Cyrano de Bergerac. Donc j'ai rencontré pas mal Jacques Weber. Enfin, je l'ai rencontré, je l'ai vu. On était à côté, on se croisait dans les couloirs. Et tous les soirs, je me disais, toi, tu as du courage, parce que faut le faire quand même. Mm-hmm. C'est un rôle extraordinaire. Bref. On monte sur scène avec une appréhension terrible. Et puis bon, au bout de 5 minutes, on sait que il faut y aller. Enfin, on ne sait pas qu'il faut y aller au bout de 5 minutes. On le sait tout de suite. Mais au bout de 5 minutes, on sait que bon, ben voilà, allez. C'est comme quand on a décollé en avion. Après, ma foi, il y a la vitesse de croisière. C'est vrai, hein. C'est vrai que quand on flippe le plus en avion, c'est pendant le décollage, quoi. En général, on se dit bon. Puis une fois que c'est fait, on dit bon, ben adieu vat, quoi. Espérons que le pilote va pas faire trop de bêtises. Voilà, il y a ça. On sait que ça y est, c'est parti. Il faut aller au bout. Donc, de toute façon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la nécessité. Quand tout va mal, on se dit, il va falloir que je me mobilise comme à fond pour arriver à sortir ce spectacle. Alors que quand tout va bien, bon, ben, on s'installe dans une sorte de confiance qui, en général, pardonne pas. Hein. C'est là qu'on se plante, c'est là qu'on fait des spectacles bof, sans grand intérêt, souvent, quand tout est trop facile. Il faut un petit peu de précarité sur scène, je crois. Il faut se mettre en danger. Moi, à une époque, je me suis dit, bon ben, j'ai joué le même spectacle avec le Magic Circus 900 fois. Mmh. Quand on est à la 900e, on a fait un autre spectacle avant la 1000e, mais j'ai des copains qui sont restés dans l'orchestre, ils ont fait la 1000e.
Est-ce qu'il y a une certaine lassitude?
Ben oui, mais comment vous mobilisez de l'énergie à la 1000e fois? Il n'y a plus de nouveauté, là, pour le coup. Hein. Mmh. C'est difficile, c'est très difficile de mobiliser de l'énergie pour un truc comme ça, quoi. Donc moi, j'avais envie de me mettre en danger. Je montais sur scène, j'avais plus jamais le trac. Ici, par exemple, le vendredi soir, j'aurais peut-être un petit peu le trac parce qu'effectivement, bon, même si je suis un vieux briscard, d'abord on est que trois. Quand c'est moi qui joue de la guitare, il y a que moi qui joue de la guitare, donc c'est à mon tour, quoi. Je peux pas. C'est moi qui dois porter le show, même s'il y a les deux autres. On sait bien quand même que celui qui chante et qui joue de la guitare dans le blues, en général, c'est celui qui prend la place de devant. Faut pas se raconter d'histoire. Donc avec Daniel, on alterne, ce qui fait que comme ça, on peut se reposer un petit peu. Mais ça permet de recharger les batteries pour quand c'est son tour, quoi. Et puis bon, on se mettre au service de l'autre aussi, c'est assez sympa, surtout dans un contexte comme ça où... Ce sont des gens avec qui je partage pas mal de choses, donc c'est assez tranquille sur scène parce qu'on se connaît bien quand même si ça fait assez peu de temps qu'on joue ensemble finalement.
On en parlera tout à l'heure. On va faire une deuxième pause musicale en blues, bien sûr, et peut-être avec une chanson, une que vous interprétez.
Oui, on va jouer la numéro 5. Ça s'appelle Mary Had a Little Lamb. C'est un morceau qui a été repris par Stevie Ray Vaughan, mais qui a été écrit, je crois, par Buddy Guy.
Cool. basket. A green and yellow basket. I wrote a letter to my lady. On my way I passed it.
Et on retrouve notre ami Jacques Cézanne, musicien, chanteur, bassiste de blues, et voilà, qui nous fait l'honneur d'être sur Fréquence Mistral aujourd'hui. On parle bien sûr du blues, de votre parcours de musicien, 6 ans avec Rissé Barrier, pardon, et ensuite 6 ans avec Magic, le Grand Magic Circus. Mmh. J'ai envie de venir donc à la guitare, la première guitare. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter la première guitare et est-ce qu'on se sert d'un idole hein? On se dit ah je veux un jour j'aurai une comme ça.
Oui, je crois qu'on se dit ça, mais c'est vrai qu'au début je m'intéressais pas trop aux guitares que les gars avaient. Je crois que c'est quand j'essaie de mobiliser mes souvenirs. Bon, j'ai fait comme beaucoup de gens. Mon père m'a acheté une guitare espagnole parce qu'on est allé en vacances en Espagne, comme la moitié des vacanciers de l'époque. Et bon, j'ai joué sur cette guitare espagnole sur laquelle j'ai mis des cordes en acier, évidemment. Pendant des années, il a fallu un sacré bout de temps avant que je m'achète une guitare qui commençait à être sérieuse. Mais c'est vrai que bon, les guitares aujourd'hui on trouve une Gibson, même des Gibson de bas de gamme, si j'ose dire, bon, elles vont être fabriquées en Indonésie ou elles vont être fabriquées je sais pas où, on trouve ça pour allez 500 euros, peut-être même un peu moins. À mon époque, pas question, des Gibson d'occasion ou des Fender d'occasion, je parle pour les gens qui connaissent un petit peu les guitares. Il y a deux marques, il y a Gibson et Fender, en tout cas pour le blues, c'est ça. Et donc, c'était intouchable. Moi, la première Gibson sur laquelle j'ai mis les mains, je devais avoir, je sais pas, 16 ans, 17 ans. C'était une Gibson demi-caisse, ça devait être une 335, dans le magasin de musique de mon bled, Chalon-sur-Saône, mais il y en avait une et j'en avais jamais vu avant. Hein. Et c'était intouchable pour moi. Ça valait, je sais pas, à l'époque, ça valait 600 000 francs, quoi. Disons, 6 000 francs nouveaux, quoi. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup d'argent, parce que le SMI, à l'époque, je vous le rappelle, était à 380 francs. Alors, vous voyez, 6 000 balles, ça faisait tout de suite du bruit, toi. Donc, aujourd'hui, il y a des guitares à des prix faramineux comme ça, mais
il y a aussi la possibilité d'avoir un rapport qualité-prix avec d'autres.
Exactement. Mmh. Un gamin qui commence, aujourd'hui, il peut s'acheter une SP ou il peut s'acheter, je sais pas, bon, n'importe quoi, une Epiphone. Il y met 250, 300 euros. Il a une bonne guitare. Si elle est bien réglée par un commerçant sérieux, il a un outil où il peut travailler, quoi. Et puis après, il peut changer des micros, etc. Donc moi, non, les guitares... La première que je me suis payée, j'ai été bosser un mois en usine pour me la payer. Et elle valait 1350 francs et c'était une copie allemande d'une Les Paul. À l'époque, tous les guitaristes de blues avaient des Les Paul. C'était la grande époque de la Les Paul. Et donc, bon, ben voilà quoi. Mais le guitariste qui jouait avec mon frère, lui, il avait une Strato. Je vais vous dire, c'était tellement rare. Je me souviens encore aujourd'hui. Et donc, ça devait être en 62. Hein. Le jour où je suis arrivé chez lui, il venait de recevoir sa Strato. Et il a ouvert la caisse devant moi. Et j'ai encore l'odeur dans le nez.
Ah oui.
Ah, c'était une émotion dans ma vie extraordinaire. La première Fender que j'ai vue, j'ai jamais eu le droit d'y toucher. Mais, et l'odeur de cette guitare, quoi. J'avais le droit qu'à l'odeur. Mais c'était incroyable qu'il ait pu s'acheter une Fender. Il avait du pognon quand même. Il avait un magasin d'électronique, donc il avait du fric. Pour l'époque, il pouvait se payer ça. Mais c'était le seul qui avait... Ouais.
des regrets là, vous aimeriez vous acheter est-ce que ça est un rêve
non, non, j'ai pas de guitare dont je rêve. En fait, moi j'ai jamais comme j'ai dit à Gibson et Fender, bon, j'ai deux Gibson pour le jazz mais et pour le folk. Mais pour le blues, j'ai jamais eu ni Gibson ni Fender. Je joue sur des copies de Stratocaster qui sont excellentes, qui me plaisent depuis la première note. Et j'ai acheté récemment une guitare allemande qui s'appelle Duesenberg, qui est une copie de Les Paul, enfin un modèle approchant, quoi, et qui me satisfait pleinement, qui a un confort de jeu extraordinaire. Et si je voulais acheter une Les Paul, il faudrait que j'y mette des sommes tellement faramineuses que c'est pas la peine. J'ai des copains là ici dans le coin qui ont des Les Paul d'époque, mais bon, ils les ont achetés il y a très longtemps, à une époque où moi je mettais mon argent ailleurs, où j'étais plus professionnel, où j'avais une niche spécifique. D'ailleurs, oui, j'avais une Steinberger, j'avais des guitares de l'époque qui aujourd'hui ont plus grande valeur. J'ai pas capitalisé, ça m'a jamais tellement intéressé. Ça, il y a des gens, je vois des musiciens qui ont des guitares faramineuses. Enfin bon, souvent, j'ai joué dans un groupe avec une chanteuse d'Avignon. Il y avait un guitariste, il a changé trois fois d'ampli, et trois fois de guitare, et il avait toujours le même son. Alors à quoi ça sert Moi, en plus, je le sais maintenant, j'ai à peu près toujours le même son avec les guitares que j'utilise. Parce que c'est mon oreille qui veut un certain son, puis parce que les doigts sont beaucoup plus importants que la guitare aussi. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne guitare. Mais un bon guitariste sur une bonne guitare, ça sonne bien. Un mauvais guitariste sur une bonne guitare, ça sonne pas bien. Je crois que c'est assez simple. Ce n'est pas pour dire que je suis un bon guitariste, c'est pour dire que bon, moi, je sonne comme moi avec n'importe quelle guitare, quoi. Puis voilà.
Vous avez appris en autodidacte départ ou
complètement, oui. Oui, oui.
Et toujours ou vous avez fait après des formations?
Je lis un peu la musique, mais pas beaucoup, pas de façon opérationnelle, disons. Mm-hmm. Il me faut un peu de temps tout seul pour lire les partitions, pour les mettre en place, mais autrement, non. Je suis autodidacte, de toute façon, heureusement pour jouer le blues,
il faut.
C'est pas la peine de connaître beaucoup de théories. Mm-hmm. Ça peut servir pour faire des exercices, mais dans le blues, l'intérêt, l'important, c'est l'émotion, c'est c'est le discours. Parce que on joue tous sur les mêmes notes, et elles sont pas nombreuses, on joue sur 5 ou 6 notes maximum, plutôt sur 5, pour être vraiment précis. Et après, c'est la façon dont on les place, la façon dont on les triture un petit peu, parce qu'il y a une chose qui s'appelle la note bleue, c'est-à-dire que c'est une tierce qui n'est ni mineure ni majeure, et on bascule en permanence entre le majeur et le mineur. Et c'est là que ça se passe, le blues. Donc, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose d'assez peu technique, finalement. Il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas, il y a des gens qui l'ont d'une certaine façon. Quand on écoute un blanc qui joue du Texas blues comme Stevie Ray par exemple, ça a rien à voir avec Albert King, même si effectivement Albert King est l'inspiration principale de Stevie Ray. On pourrait dire ça a tout à voir, oui, mais quand on écoute les deux l'un derrière l'autre, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est parce que le son est pas le même, parce que le phrasé est pas toujours le même, etc., etc., quoi. Donc ce sont des différences subtiles d'un guitariste de blues à l'autre. Mais ce sont des différences importantes.
C'est une vraie passion pour vous.
Ah oui, oui, c'est une culture. Pour moi, le blues, c'est vraiment une culture.
Alors, vous habitez Niozel.
Oui.
Et c'est pas très loin d'Oraison, où il y a Eden District Blues. Alors, il y a des concerts régulièrement. Est-ce que vous y allez régulièrement et est-ce que vous vous produisez aussi?
Non, je m'y produis pas. Je sais pas comment on peut s'y produire. Il faudra que j'en parle avec, avec Jean-Paul et je sais plus comment c'est son prénom. Mais peu importe. Non seulement j'y vais, mais j'y vais beaucoup. J'y étais vendredi soir.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait?
Ah, il y avait deux concerts super, vraiment, vraiment, vraiment bien. De toute façon, Eden Blues font un boulot extraordinaire. Enfin, il faut les saluer. Et je les salue bien bas. En plus, ils creusent leur sillon depuis des années, des années, des années. Je trouve ça vraiment bien. Et puis, il y a du monde, quoi. C'est super. Et puis, le public, c'est vraiment... c'est pas le public niche blues, quoi. C'est le public des gens, quoi. Et... il y avait vendredi soir un concert. Ce qu'on a écouté en générique là tout à l'heure, c'était ça, un type qui s'appelle Handsome Thunderbird, qui, alors ça, c'est des blancs et ils jouent Texas, quoi. C'est vraiment le son Texas, comme le frère de Stevie Ray, Jimmy Vaughan. C'est uniquement sur le groove, parce qu'il y a très peu de notes, en fait. C'est des choses très simples, mais c'est la façon de swinguer qui est tout à fait particulière. Et samedi, il y avait un autre groupe, j'ai pas pu malheureusement assister au concert de l'après-midi, mais j'ai assisté au concert du soir. Il y avait un groupe, il y avait un groupe de Français, là, un trio assez sympa, acoustique. Et puis après, qui jouait des choses de Johnny Cash, Hank Williams, un peu country, quoi. Et puis après, il y avait un groupe, deux gars de Chicago, enfin trois gars de Chicago, deux jeunes blancs, dont les 25 ans maximum, et puis un vieux briscard, un black, là, très
c'est
très sympa.
C'est pas Adrian Byron Burns
Non, non, il s'appelait quelque chose Wilson. J'avoue que j'ai pas trop la mémoire des noms, mais il chantait vraiment super bien. C'était très très agréable. Et les deux gars qui jouaient derrière, il y avait aussi une rythmique française. Les quatre qui jouaient derrière eux faisaient bien le boulot. C'était très sympa, harmonica, guitare, basse, batterie, et ça sonnait vraiment Chicago, c'était bien, c'était très sympa. Et puis bon, ils ont joué jusqu'à les deux, ça s'est terminé à 1h moins le quart le matin, quoi. Ça dansait dans tous les coins, c'était vraiment super, hein. Il y avait des gens qui commençaient à s'en aller vers minuit et demi, et puis...
Ils revenaient.
Ils se mettaient à danser dans les allées, quoi, parce que non, c'était trop bon, il fallait continuer à danser. C'était assez sympa quand même, ouais. Ouais, ouais.
Donc ça, c'est Eden District Blues, ouais. À Oraison. C'est étonnant que vous vous y prodigiez pas. Peut-être que ça va venir.
Ben ouais, il faudrait que j'en cause. Ouais. Moi, je dirige l'association Connivence, qui est maintenant basée à l'Odalie et qui y réside. Et donc, je voudrais qu'on organise peut-être quelque chose cet été avec les musiciens du coin, quoi, une sorte de showcase, comme on dit aujourd'hui, un présentoir.
Parce que les musiciens du coin sont nombreux.
Oui, oui. Le blues ici, il y a pas mal de gens, ouais, quoi. Il y a une bande à Digne. Il y a Jean-Paul Avellaneda, que tout le monde connaît, tous les amateurs de blues, en tout cas, avec Merci à Oraison. Il y a les gens de la marque jaune, enfin c'est de ce groupe là sur le plateau de Valensole. Il y a moi, ou du moins il y avait moi quand j'habitais ici, maintenant je suis revenu dans le coin. Il y a pas mal de gens qui jouent le blues, il y a un public pour ça.
Alors, quand on parle blues, j'entends forcément harmonica. Est-ce que c'est, est-ce que vous en jouez?
Non, moi j'en joue pas, mais ici il y a trois. J'ai oublié de parler de quelqu'un. Mm-hmm. Je vais en parler maintenant. Oui. Il y a plusieurs personnes, et à l'harmonica on a trois bestias, comme on dit. On a un type qui s'appelle Youssef Remadna, que vous connaissez peut-être, qui avait un groupe qui s'appelait Backdoor. Moi, comme je suis parti une quinzaine d'années, je suis plus au courant des formations présentes, mais je sais qu'il joue toujours. J'ai parlé avec lui. Il était au concert samedi soir. Et je sais qu'il a un duo, il a un quartet avec des copains parisiens. C'est un type qui joue de l'harmonica d'une façon extraordinaire. Lui, il va à Chicago, il fait carrière. Hein. Il aurait peut-être pas resté ici, Youssef. Et puis, il y a un gars qui s'appelle Marco, qui joue dans le coin, qui joue extraordinairement bien. Et puis, il y a un autre type qui s'appelle Django Lou, qui est le frère de Dom, que les amateurs de blues connaissent et qui nous a quittés, malheureusement, il y a quelques mois. Et Django Lou est un joueur de blues et un harmoniciste de haute volée, lui aussi.
Il habite à Mézel, non ?
Non, il habite à Marseille, lui.
Ah bon ?
Il habite à Marseille, mais ses racines sont ici, quoi. Il vient souvent ici. Tous ces gens-là, ces trois harmonicistes-là, je ne crois pas qu'il y ait nulle part une concentration de talent aussi certain dans beaucoup d'endroits en France. J'ai dit nulle part, et après je dis dans beaucoup d'endroits. Ma foi, ma phrase était un peu longue, je me suis emmêlé les pinceaux.
Jacques Cézanne, on va faire encore une petite pause de blues.
Okay.
Alors, lequel choisissez-vous?
Un morceau, c'est une composition de Daniel Pacci, après on pourra parler des reprises justement. C'est un morceau qui s'appelle I Had a Dream, c'est le numéro 2.
Le 2, c'est tout de suite.
I had a dream. a dream last night. I was a meteor now. But I wake up in the morning, hey, I feel so bad.
Et on a envie de faire hier. Yeah. Jacques Cézanne du trio qui va se produire déjà le vendredi 23 mai à 21h30 à l'Odalie à Niozel. On parlera plus en détail tout à l'heure de comment ça se passe. On va revenir à ce groupe, ce trio que vous avez formé. Ça fait tout juste 6 mois.
Ouais, ça fait... Moi, je suis revenu dans la région il y a 8 mois j'avais un groupe avec le batteur qui s'appelait Fat Cats, il y a quelques années de cela. Et on s'est remis à faire du blues tous les deux. Et puis, on a cherché un bassiste. Et puis, il avait une autre formation en blues, un trio avec Daniel. Et puis, ils avaient un problème de bassiste. Et effectivement, c'est souvent une difficulté, un bassiste, parce que on en connaît, sauf qu'ils habitent loin, ou ils sont déjà dans d'autres formations, c'est compliqué. Et donc, un jour comme ça, mais vraiment comme ça, j'ai dit à Philippe, le batteur, j'ai dit, si vous avez un problème, je prendrai la basse. Bon, moi, j'avoue que j'ai jamais joué de basse. J'ai acheté une basse il y a une trentaine d'années, j'ai joué un petit peu, mais jamais très sérieusement. Et puis, il a embrayé sur ce que je proposais. Il m'a dit, écoute, c'est pas une mauvaise idée. Je vais demander à Daniel ce qu'il en pense. Et Daniel a dit, moi, je joue de la basse aussi. Donc, s'il le fait, je peux le faire. Donc, on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas, après tout. On s'entend. Il y a quelque chose de bien qui se passe entre nous. Donc, plutôt que d'amener un quatrième larron, surtout qu'en plus économiquement, un quatrième larron, ça devient tout de suite compliqué. Le trio, malheureusement, c'est une formule plus facile, parce que les patrons de bistrot, ils ont moins de mal à sortir pour 3 que pour 4, etc. etc. Je veux pas épiloguer là-dessus, mais on l'imagine bien. Et puis moi je me suis mis à la basse, j'ai trouvé une vieille basse que j'ai remise à... en place, je suis allé voir un luthier qui m'a fait 2-3 trucs, et puis voilà, il se trouve qu'elle a un super son, elle me convient parfaitement, et puis j'adore ça. c'était un truc que j'aurais jamais pensé, mais j'avoue que j'aime beaucoup jouer de la basse, ça me donne une nouvelle perspective sur la musique. J'avoue que maintenant, quand j'écoute la musique, j'écoute assez différemment, parce que j'écoute plus seulement le guitariste, j'écoute aussi la basse, et j'écoute le reste, je veux pas dire que je le faisais pas avant, que j'écoutais pas le bassiste, mais c'est une perspective différente, y compris dans le jazz. Je fais un peu de jazz à la basse, et ça a changé mon écoute. Bien, on apprend tous les jours, même à mon âge.
Vous parliez de fausses notes délicates dans certaines fois, mais le bassiste, c'est vraiment lui qui donne le rythme avec le batteur, évidemment, mais...
Il donne le rythme et l'assise, le fondement harmonique.
Il faut pas se rater là.
Faut pas se rater. C'est-à-dire que si le bassiste ne swing pas, ça peut pas tourner.
Ah oui.
Ça peut pas tourner. Il faut que, et puis il faut que ça swing, quoi. Le blues, c'est 90% de swing et de groove, comme on dit, quoi.
Alors ça s'apprend, le swing, ou on l'a ou on l'a pas.
Ah. Il faudrait demander à Philippe qui a tous les diplômes qu'il faut et qui est un grand pédagogue. Est-ce que le swing s'apprend ? Personnellement, la réponse est non. Disons que on peut travailler certaines choses, mais j'ai donné des cours de musique comme j'ai donné des cours d'anglais dans ma vie. Pour la musique, c'est encore plus évident. On sent les gens qui ont le sens du rythme et ceux qui l'ont pas, quoi. Il y a des gens qui sont incapables. L'autre jour au concert, devant moi, il y avait 2 types. Les pauvres.
Ils battaient la mesure à contre-temps.
Ils ont essayé de frapper dans leurs mains 10 fois sur 10 morceaux, pourtant simples. Ils ont jamais pu. Ils tapaient d'abord sur le premier temps et ils tapaient pas sur le premier temps. Ils tapaient n'importe où, sauf là où il fallait, quoi. Alors que le blues, ça se tape sur le 2 et le 4. Non, c'était terrible. C'était terrible. Et ils se rendaient bien compte que ça allait pas. Et ils étaient incapables de le trouver. Bon, alors, Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la salsa, par exemple. Mais Philippe m'a fait travailler et maintenant, j'ai compris comment on faisait et comment on faisait la base sur la salsa. Donc, ça prouve que ça peut se travailler. Mais il y a quand même des choses qui me semblent... Je pense pas que ce soit inné, mais je pense que c'est la culture, ce qu'on a entendu, etc. Puis c'est peut-être inné, d'ailleurs. J'en sais rien, après tout. Je ne vais pas m'instituer philosophe, là. Mais oui... C'est comme le flamenco. Vous avez des chanteurs qui essayent de chanter du flamenco. Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas le... On dit le duende en espagnol. Ben, ils n'ont pas le duende. Il n'y a rien à faire. Mmh. Voilà. Ben, en blues, c'est la même chose. Il y a des gars qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. On écoute Youssef Remana, dont je parlais tout à l'heure. On dit, lui, il est tombé dedans quand il était petit. Il y a beaucoup de travail parce qu'il connaît un répertoire monstrueux et puis il le joue très, très bien. Mais... son travail, sans le talent de départ, ça aurait donné que du professionnalisme. Mais lui, il a du talent, quoi. Moi, je m'assois et j'écoute ce qu'il fait. J'en reviens pas à chaque fois. Faut aller le voir, hein, si vous avez l'occasion, ceux qui m'entendent.
On va déjà aller vous voir, vous oui, entendre à l'Odali Club.
Faut que je fasse la pub pour
voilà,
nous.
Voilà, déjà, en premier. Et puis, on va peut-être parler de l'association Connivence.
Oui, l'association Connivence, c'est que j'ai l'honneur de diriger là depuis quelques semaines. C'est une association qui est une vieille de la vieille. Ça fait déjà, je ne sais plus combien d'années, mais c'est un contrebassiste de Fontienne qui a créé ça, qui s'appelle Christian Couteau. Et je crois que c'est lui qui l'a fondé. Et ça a eu... divers dirigeants, mais ça a toujours été une association dont le but est de promouvoir l'écoute et la pratique du jazz dans les Alpes-de-Haute-Provence. Alors, le jazz et les musiques improvisées. Mmh. Le blues étant...
Alors, est-ce que l'association, par exemple, l'AMI assisteront ? Non, c'est quelque chose de bien à part. Il y a un atelier de musique improvisée assisteront avec Alain
oui,
Soler.
Oui, ouais. Oui, je sais ça.
Ça fait pas partie de...
C'est-à-dire qu'eux sont là depuis 20 ans.
Oui.
Moi, je sais que quand je suis parti, ils étaient déjà là. Quand j'ai habité ici, il y a longtemps. Donc, c'est pas exactement la même chose en ce sens qu'il n'y a pas d'école, alors que l'AMI, il y a un vrai projet pédagogique. Quoi. Nous, c'est plutôt... une association pour favoriser l'écoute, la pratique, c'est-à-dire organiser des concerts et éventuellement, par exemple, Philippe est allé faire avec Sébastien Lalisse, qui travaille à l'AMI d'ailleurs, un atelier et Olivier Chabas, qui est un bassiste de Noyères, de la vallée du Jabron. Ils sont allés faire une masterclass jazz dans les Alpes, il y a 2 mois de ça. On a fait des concerts à Montfuron. On voudrait faire des actions en direction des scolaires aussi. Ça, ce sont des choses qui sont pour l'instant à l'état de projet. Il y a eu des choses qui se sont faites dans le passé. Il y a eu une mise en sommeil un petit peu de ça parce qu'il y avait l'Odali qui était en train de se créer et que la personne qui dirigeait Connivence était très branchée dans le projet de l'Odali. Donc il y avait beaucoup de choses à la fois. Maintenant que l'Odali est implanté, Connivence va pouvoir se consacrer à son projet, y compris pédagogique. Mais favoriser la pratique du jazz, c'est pas forcément apprendre le jazz aux jeunes. C'est aussi donner un espace pour faire le bœuf, pour écouter de la musique ensemble, aux musiciens. Ou aux amateurs autant qu'aux professionnels, parce qu'il y a pas mal de musiciens dans le coin, des gens qui sont retraités, qui ont fait leur carrière, et des grands musiciens. C'est toujours bien d'avoir un lieu où des vieux anciens peuvent venir montrer ce qu'ils savent faire à des jeunes, et parce que la confrontation des deux, c'est quand même toujours très intéressant. Parce que les jeunes ont l'enthousiasme et puis les vieux ont souvent le savoir-faire, la connaissance et puis le métier, comme on dit. Et donc, bon, en plus que c'est un métier où on vieillit, bien sûr on vieillit, mais enfin, quand on joue bien, on joue toujours bien, je dirais. Même si on a un style qui est plus aussi moderne que ceux qui sont au goût du jour, La modernité, c'est quelque chose d'assez fluctuant. Hein. Il y a des choses qui sont modernes, puis qui ne sont pas très intéressantes, et des choses qui sont plus anciennes, qui sont encore d'un niveau difficilement approchable par beaucoup de gens. Donc l'âge compte peu, mais le métier compte. Un type qui a 40 ans de métier, c'est sûr qu'il a des choses à apprendre à tout le monde.
Et alors vous-même, vous formez des jeunes?
Non.
À la musique, non.
Non. Non, je participe. Bon, en ce moment, on a 45 projets en même temps, donc c'est D'accord. assez compliqué. Mais parce qu'en plus, je fais la cuisine. Donc,
vous faites la cuisine à l'Odali Club?
À l'Odali, oui. Vendredi, c'est moi qui fais la cuisine et après, c'est moi qui
et
joue
sur scène.
Et
c'est nouveau ou vous étiez déjà...
Ça fait 6 ou 7 mois que je fais la cuisine aussi.
D'accord.
J'épaulais la compagne de Philippe qui faisait l'essentiel de la cuisine, mm-hmm. mais... Je suis en train de prendre le relais là.
Attention, parce qu'il ne faut pas lâcher la musique.
Non, je ne lâche pas la musique, bien sûr.
Donc voilà. Alors, Connivence, une association qui a pour but de faire vivre la musique.
Oui, on organise des bœufs, par exemple.
Voilà.
Avant chaque concert, le jeudi en général. Bon, le concert en général, c'est le samedi, sauf cette semaine où c'est vendredi. Mais quand il y a un concert le samedi, le jeudi, il y a un bœuf. On les faisait tard, on les faisait à 9h30. Je pense qu'on va les rapprocher dans la journée. On va les faire vers 7h30, de façon que les gens qui viennent d'un peu loin, Manosque, puissent rentrer chez eux dans des horaires décents pour retourner bosser le lendemain matin. Évidemment, il faut qu'on pense à ça.
Donc voilà. L'Odali, c'est une structure assez grande. Enfin, moi, j'y suis allée pour rencontrer justement Phil Dercol, mm-hmm. qui est à la fois le propriétaire de ces lieux et musicien et cuisinier aussi. Hein. Je crois qu'il met la main
oui,
à la pâte
oui,
aussi.
Oui, alors, la main à la pâte. Il a fait les
à
pizzas.
La pâte italienne.
Il a fait les pizzas et les pâtes fraîches ce week-end mm-hmm. et avant. Oui, oui.
Donc, c'est un lieu qui est capable de recevoir beaucoup de monde. Il y a une belle terrasse. Le temps n'a pas encore permis d'en profiter, peut-être.
Non, pas encore.
Pas
quoique, on a fait des pizzas quand même dehors et les gens sont venus s'asseoir ouais. dehors. C'était assez sympa le 10 mai, là. Ouais, ouais.
Donc, un lieu qui commence à avoir ses fidèles en clientèle.
Oui, ça commence. Hein ouais,
c'est jazz, blues, mais c'est aussi ouvert à d'autres musiques.
C'est ouvert à d'autres musiques. Oui, on a eu de la salsa. On avait 9 musiciens sur scène il y a un mois et demi. Là.
Ouais.
C'était super, très sympa.
Il y a des scènes ouvertes aussi.
Oui, et donc le jeudi.
Le jeudi.
Le bœuf, quoi.
Tous les jeudis?
Non, le jeudi avant les concerts. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de concert, il n'y aura pas de bœuf.
D'accord. Donc là, ce jeudi, il va y avoir un bœuf.
Voilà, absolument.
Alors, ça veut dire quoi, alors
Ça veut dire qu'il y a sur scène un piano, un quart de queue, il y a une batterie qui est montée, il y a mon ampli ou mes amplis, il y a un ampli de basse, il y a un ampli pour éventuellement un piano électrique ou un orgue, si quelqu'un vient avec ça. Il y a des micros pour chanter, pour jouer des instruments avant. Et donc, on arrive avec sa guitare. Si on insiste, on peut venir avec un ampli. C'est vrai que comme ça, on peut jouer avec d'autres guitaristes. Et puis, on essaye de trouver un quelque chose de commun, un terrain commun, un style commun. Et puis... Si on sait jouer jazz et qu'il y a plusieurs qui peuvent, eh ben on joue jazz. Et sinon, on joue funk, on joue ce qu'on peut, ce qu'on mm-hmm. veut. C'est le principe de la scène ouverte.
Alors ça, c'est le jeudi. Ouais. Le vendredi, c'est le concert. Est-ce que c'est plutôt le vendredi les concerts
non.
ou c'est exceptionnel?
C'est exceptionnel. J'ai programmé ça le vendredi soir parce que le samedi soir, il y a la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
Ah, il faut
je suis un grand fan de football moi-même, mais surtout que je voulais pas priver nos amateurs de football. Si en plus ils sont amateurs des deux, voilà.
Ouais, voilà. Donc le concert c'est ce vendredi 23 mai. Alors à partir de quelle heure il faut venir? Est-ce qu'on est obligé de manger ou c'est le prix du spectacle à part? Comment ça se passe?
Nous sommes une association et nous n'avons pas de licence autre que de licence de restaurant. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de servir à boire sans que les gens mangent. Mmh. Donc, il faut qu'on arrive à prendre cette chose-là en ligne de compte. Donc, c'est pour ça que nous organisons des dîners-spectacles. C'est-à-dire qu'il y a le dîner, 7h30 à 9h30, pour lequel il faut réserver. C'est mieux de réserver. Pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Comment on sait combien on aura de clients. Et donc, les portions sont, sont adéquates. Ensuite, il y a le concert proprement dit. Et bon, une fois qu'on a mangé, on peut boire tout ce qu'on veut, évidemment. Mais disons que ça n'est pas un bar où on n'a pas ce privilège-là. Mm-hmm. Ça, on peut le faire quelques fois par an, mais on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que le fait de manger est quand même une partie importante de la soirée. On essaye de maintenir des prix bas. Tout ce qu'on fait, on le fait nous-mêmes. On le fait avec autant que possible des produits locaux, des produits bio. Mm-hmm. Bon, je ne promets pas que les patates douces que je vais faire viennent de la région.
On peut déjà savoir le repas.
On sait le menu. Oui,
alors je veux savoir.
J'ai mangé aux États-Unis et j'ai fait ici à Sisteron il y a une vingtaine d'années une recette extraordinaire qui s'appelle le jambon de Virginie glacé. C'est-à-dire que c'est un jambon qui est cuit et ensuite on le glace au four avec pas mal de choses, y compris du miel et du clou de girofle. Vous voyez, ça donne un goût tout à fait somptueux à la viande de cochon. Et je fais ça avec le traditionnel des Amériques, la purée de pommes de terre et la purée de patates douces. Mm-hmm. Et avec la sauce, donc, du cochon. Et puis, je ferai des brownies pour le dessert, quelque chose comme ça.
D'accord.
Voilà, et puis, on fera une salade, on verra bien. Maintenant, ça y est, on commence à avoir de la roquette qui pousse chez nous, donc ça va, on pourra faire une salade consistante.
Alors, il nous reste quelques minutes. Mm-hmm. Est-ce que, par rapport aux reprises, justement, il y a suffisamment de choses intéressantes à jouer pour ne pas avoir besoin de créer soi-même ?
La création, c'est un vaste problème.
Ouais.
C'est un vaste débat. Willie Dixon, grand bassiste de blues, a composé plus de 1500 blues. Et en plus, il était très très bon, il avait beaucoup de talent. Donc, vous savez, personne ne joue les 1500 blues de Willie Dixon. Ouais. Donc, on pourrait passer sa vie à faire des répertoires avec seulement les chansons de Willie Dixon. Mm-hmm. Je trouve, moi, je sais pas, bon, personnellement, je compose très peu et j'ai l'humilité de penser que je ferais pas mieux que ces gens-là. Mm-hmm. Et comme j'aime leur musique et qu'elle me permet à moi de m'exprimer et d'exprimer ce que je ressens, j'éprouve pas le besoin de créer de nouvelles chansons. Maintenant, si jamais ça me vient, ben je le ferai, bien évidemment. Et Daniel fait des chansons, très bien. Mais moi, je joue essentiellement des reprises. Mais ça ne me gêne pas. Je veux dire, ça me gêne pas plus que si je vais voir Jordi Savall et qu'il joue de la musique baroque du XVIe siècle. Il en écrit pas lui-même. Enfin, ou s'il en écrit, c'est pas des concerts baroques, quoi.
Et puis on peut chacun avoir son interprétation.
Exactement. Je pense que la musique, le blues, c'est maintenant, il y a des vieux classiques. Hein, je veux dire, les chansons de Robert Johnson, elles font partie maintenant du patrimoine de l'humanité. Hein. Eric Clapton, ses meilleurs morceaux, c'est quand il reprend. Son meilleur disque, pour moi, c'est From the Cradle, où il n'y a que des reprises. Exclusivement des reprises. Mais c'est vachement bien. Et puis, de toute façon, tout le monde ne connaît pas tous les blues. Donc, on peut toujours arriver avec un blues nouveau. Ouais, qu'il soit de soi ou qu'il soit de quelqu'un d'autre, ça change quoi ? À mon avis, pas grand-chose. Donc, voilà.
Jacques Cézanne, on rappelle que vous allez jouer le 23 mai 2014 à l'Odali Club, qu'on trouve facilement. Hein. C'est entre la Brianne et Fort-Calquier,
oui,
Niozel.
C'est bien indiqué, il y a des panneaux.
Voilà.
Peut-être un peu plus difficile de les voir la nuit, quoi.
Mais... Voilà. Et puis, un numéro de téléphone pour réserver le repas, le concert.
Moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur le site odali.fr.
Il y a un site, alors.
Il y a un site.
Parce que je regardais le Facebook de Odali Club, qui n'est pas à jour, puisqu'il n'y a malheureusement pas l'affiche
Exactement.
De ce
non,
concert.
Mais c'est parce qu'on a commis une erreur au niveau du Facebook, c'est qu'on a créé deux sites.
Il y en a deux,
ouais.
Voilà.
Et donc... ouais, bon, bah, il faut qu'on en supprime un.
Et ça, c'est pas facile,
et
hein.
Donc, bah, ouais. Et sur Facebook, bonjour. Moi, personnellement, je sais pas, je dois être d'une autre génération, je ne comprends rien à Facebook.
C'est assez compliqué.
J'ai besoin d'être entraîné là-dessus parce que j'ai vraiment du mal. Et on a tous du mal. Donc voilà, appel aux bonnes volontés. Nous sommes une association. Si des jeunes veulent venir nous apprendre Facebook, pas de problème. Voilà.
Donc il y a un site.
Le site odali.fr.
Odalie.fr. Alors, voilà. Et là, on peut trouver le numéro de téléphone.
Absolument, le numéro de téléphone dont on a besoin pour réserver sa table.
Pour réserver sa table avec ce délicieux repas en amuse-gueule du concert. Mmh. Hein, c'est ça, vous jouez en général après le repas.
Ah oui, on joue obligatoirement après le repas.
Ça, c'est bien.
On débarrasse et après... La salle se transforme en salle de concert.
On rappelle les amis musiciens qui seront à côté de vous, Jacques Cézanne.
Donc Daniel Pacci à la guitare, au chant et à la basse, et Phil Dercol, l'âme de l'Odali, qui est au drums, à la batterie, quoi.
Voilà.
Il n'aime pas qu'on dise la batterie.
Ah ouais, les drums, c'est mieux, c'est vrai. C'est plus sonore, ouais. Parlant. Voilà. Phil Dercol, donc, aussi dans ce trio qui s'appelle Double Blues. Oui,
Double Blues. Voilà, Double Blues, parce qu'il y a deux styles. Mm-hmm. Moi, je joue plus Texas et blues rock, et Daniel joue plus Chicago Blues. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de dire dans cette émission qui vous est dédiée?
On va parler de tarifs, si c'est possible. Donc, le repas, le jambon de Virginie, ça sera à 15 euros. Mm-hmm. Les brownies seront à 5 euros. On peut ne prendre que les brownies. Et puis...
C'est dessert, hein ?
Voilà, c'est un dessert. Comme on essaye de payer les musiciens, on demande une participation aux frais qui s'élève à 8 euros.
8 euros pour... participer,
voilà,
au concert.
Cet argent-là est intégralement reversé aux musiciens.
D'accord.
Chaque fois qu'on a des musiciens, on les paye avec ça. Plus le reste, les choses que... C'est pas facile de payer des musiciens, hein, donc il faut... c'est pour ça aussi qu'on fait à manger, c'est parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'association pour pouvoir payer les musiciens. Parce que un musicien, il faut que ça mange. Et il faut que ça vive. Et donc, c'est pas facile. Mais on essaye de faire de notre mieux de ce point de vue-là.
Alors, que rajouter encore? Il nous reste quelques minutes. Alors, est-ce qu'on écoute...
On peut écouter un morceau.
Oui.
On peut écouter un morceau lent, pendant qu'on y est, qui fait quelques minutes. Il s'appelle Third Degree, c'est le numéro 8.
Le 8, et ça fait partie donc de cette maquette démo que vous nous avez apportée. D'ailleurs, si je puis me permettre, notre collègue Jean-Marc Leca, collègue mistralien à Digne, féru de blues, demande bien sûr si on peut avoir la démo de Jacques Cézanne. Voilà, le message est passé, on en discute tout à l'heure, et en attendant, on écoute cette chanson.
Accused of petting, I can't even raise my hand. Bad luck, bad luck is killing me. But I just can't stand no more, no more, no more of this third degree. Got me accused of murder, I ain't harmed a man. Got me accused of forgery, I can't even write my name. bad luck. Bad luck is killing me. But I just can't stand no more, no more, no more of this third degree. Of children, and ain't every one of them was mine. Bad luck, bad luck is killing me. Just can't stand no more, no more, no more of this third degree.
Et eh bien voilà, une belle finale pour cette émission avec Jacques Cézanne, où il était question de son parcours, de ses concerts et aussi du concert à venir. Merci d'être venu jusqu'à nos studios. Et puis on va, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin, si vous avez envie de dire quelque chose qu'on a oublié.
Non, on n'a rien oublié, mais venez nombreux.
Venez nombreux voilà. À Odali, donc c'est un club jazz, blues, et on peut écouter de nombreux artistes et venir participer à des bœufs aussi le jeudi, avant dans la même semaine où il y a les spectacles. Mmh. N'hésitez pas à aller sur le site odali.fr. Mmh. Pour avoir le numéro de téléphone et réserver le bon plat et le bon concert qui va avoir lieu ce vendredi 23 mai. Jacques Cézanne, merci. Au revoir. On peut aussi rappeler aux auditeurs qu'on peut retrouver cette émission sur le site Fréquence Mistral Digne. Pour ça, il suffit de cliquer sur l'onglet de Digne et on vous retrouve dans nos invités en direct à l'antenne. Et on va se quitter avec une chanson.
De Jimmy Vaughan, le frère de Stevie Ray Vaughan, qui fait un blues que j'adore, très, très simple, très basique, mais très swingant.
Au revoir.
Au revoir.
drive across your log. I'm a crosscut soul. Baby, drive across your log. I'll cut the water so easy for you. You can help you say hot dog. I've got a devil axe that really cuts the wood. I'm a crosscut soul. Bury me in your root. I'm a crosscut soul. Baby, try to cross your log. I'll cut the water so easy for you. You can help you say hot dog. Yeah, yeah. I'm a crosscut soul now. Cut wood. I'm a crosscut soul, baby. Bury me in your root. I'm a crosscut soul, baby. Try to cross your.